إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui à la leçon 9 du livre intitulé Leçon importante pour toute la communauté, de son auteur, l'imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il nous explique ici, de manière détaillée, les différentes choses à prononcer durant le tashahhud. Le tashahhud consiste à dire At-tahiyyatu lillah. والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah vertueux. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Ceci est donc une des formules du tashahhud rapportée authentiquement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on commence par dire ici, At-tahiyyatu lillah. Les salutations sont pour Allah. Ce qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter toute forme de révérence et de glorification, comme par exemple l'inclination ou la prosternation, qui sont réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque se prosterne ou s'incline pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci est un polythéiste mécréant. Ensuite, tu dis dans ce tashahhud, وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ainsi que les prières et les bonnes œuvres, c'est-à-dire les prières et les bonnes œuvres sont pour Allah. Ce qui est visé par les prières, ce sont les invocations. Toutes tes invocations, tu ne dois les adresser qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont dit que ce qui est visé par cela, ce sont les cinq prières, qui elles aussi sont réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bonnes œuvres, ce sont celles qui réunissent les deux conditions que l'on a déjà mentionnées dans des cours précédents, et qui sont la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant exclusivement l'œuvre, et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en s'éloignant de toute chose innovée et nouvellement instaurée dans la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est bon, et il n'accepte de ses serviteurs que ce qui est bon parmi les paroles et les actes. Et pour être bon, ils doivent remplir ces deux conditions qui sont, comme on a dit, la sincérité et la conformité. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis ensuite As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit ici que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Et dans d'autres formules on trouve As-salamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut soit sur le prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Et ceci est rapporté de certains des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui ont dit qu'une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors il prononçait le tashahhud ainsi. Toutefois, d'autres parmi les compagnons ont continué après cela à enseigner le tashahhud de cette manière, tel que leur avait enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de gêne en cela, car ces différentes formules sont toutes rapportées de manière authentique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu invoques donc ici en faveur du messager d'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le salut, la miséricorde et les bénédictions. Les gens de science ont dit, ceci nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme vous le savez, il y a des gens qui invoquent le messager d'Allah. Ils adressent leur demande au prophète. Ô messager d'Allah, accorde-moi ceci et cela. Et ceci est du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Ensuite tu dis, As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Que le salut soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah vertueux. Ici, c'est une invocation en faveur de tout serviteur vertueux dans les cieux et sur la terre. Et ceci également, c'est une réfutation de ceux qui adorent les saints, les walis, ou les tombes en prétendant qu'elles sont les tombes de personnes vertueuses. Nous leur disons alors, comment peux-tu invoquer en faveur des vertueux pour qu'Allah leur accorde le salut? Puis en parallèle de cela, aller invoquer ces vertueux en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car comme on a dit, celui en faveur de qui on invoque, on ne peut pas l'invoquer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite tu dis, ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. C'est-à-dire que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, sous toutes ses formes. La prière est un droit exclusif d'Allah. L'invocation est un droit exclusif d'Allah. La peur, l'espoir, le tawakkul, le sacrifice, et ainsi de suite parmi les différentes formes d'adoration, toutes ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque voue une seule forme d'adoration à autre qu'Allah, alors celui-ci est un polythéiste mécréant. Et s'il ne se repent pas de cela avant sa mort, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas, le paradis lui sera interdit, et sa destination sera le feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « Innahu man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu al-nar. » Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa destination sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Et il dit dans l'autre verset, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc cette attestation, de par son importance, tu la répètes dans chacune de tes prières au moment du tashahhud. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, son adoration est vaine. Car ce sont des fausses divinités qui ne méritent pas d'être adorées. Enfin, tu dis, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Son serviteur, cela veut dire qu'étant donné que c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne mérite pas l'adoration. Car comme on a dit, l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Mais en même temps, il est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que l'on ne doit pas le traiter de menteur, car on doit croire en tout ce dont il nous a informé, et on doit lui obéir et le suivre. Lui obéir, c'est-à-dire se soumettre à ses ordres et délaisser ses interdits. Et le suivre, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a légiféré. Et ceci sont les quatre choses qui sont impliquées par ton attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois en tout ce dont il nous a informé, tu obéis à ses ordres en les accomplissant, tu t'écartes de tout ce qu'il a interdit et tout ce qu'il a réprimandé, et tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'il a légiféré. Ceci est donc une des formules légiférées du tashahhud, dans l'explication des sens de manière résumée et ce que tu viens d'écouter. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, on prie ensuite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on implore la bénédiction en sa faveur, en disant, puis il nous mentionne la formule. Donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a lieu aussi bien dans le premier que dans le dernier tashahhud. La différence est que dans le dernier tashahhud, elle fait partie des piliers de la prière. Tandis que dans le premier tashahhud, elle est seulement recommandée. Tu pries donc sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, tu es digne de louange et de glorification. Et bénis Muhammad ainsi que la famille de Muhammad. Comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es digne de louange et de glorification. Donc tout d'abord, il faut savoir que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de ses anges rapprochés. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sur sa famille, sur Ali Muhammad. Et les gens de science ont mentionné que sa famille, ce sont les descendants de Hashim, ainsi que les descendants de Muttalib, de même que ses épouses, c'est-à-dire les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné un autre avis en disant que ce qui est visé par Ali Muhammad, c'est toute la communauté de Muhammad, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'après cette explication, on traduirait plutôt cette invocation en disant « Oh Allah, prie sur Muhammad et sur les suiveurs de Muhammad ». Et ceci est une des explications données par les gens de science. Tu dis ensuite « Comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim ». Et la famille d'Ibrahim, ce sont les descendants d'Ibrahim, alayhi salam. Et parmi eux, nombre de prophètes et de messagers, alayhi salatu wa salam, et à leur tête, le dernier et le meilleur d'entre eux qui est notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ton tashahhud, tu prononces tout d'abord la formule du tashahhud, puis tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière que tu viens de l'entendre. Toutefois, il faut savoir qu'il y a différentes formules qui nous sont rapportées de manière authentique, aussi bien concernant le tashahhud que concernant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pouvez trouver ces différentes formules dans le livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, intitulé « La description de la prière du prophète » sallallahu alayhi wa sallam. Et il est recommandé pour le musulman d'apprendre ces différentes formules, et ainsi tu pourras les prononcer de manière aléatoire dans ta prière. Et comme on l'a vu, il y a en cela de nombreux bénéfices, comme le fait de ne pas oublier cette science, et que celle-ci soit ancrée en toi, mais également le fait de pouvoir prier d'un cœur présent, en étant concentré sur les paroles que tu prononces. Ensuite, il dit, rahimahullah, et dans le dernier tashahhud, on cherche protection auprès d'Allah contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et contre la tentation du faux messie. Donc cette invocation que l'on appelle la recherche de protection contre quatre, ces quatre qui sont le châtiment de l'enfer, le châtiement de la tombe, les tentations de la vie et de la mort, et la tentation du faux messie. Celle-ci est une sunna fortement recommandée dans le dernier tashahhud, et non pas dans le premier. Et ce, selon l'avis de la majorité des gens de science. Et il apparaît que certains parmi eux ont penché vers l'obligation de cette invocation. Tout d'abord parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et la base dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils indiquent l'obligation. Et il apparaît que c'est ce qu'ont compris certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. À tel point qu'il est rapporté de l'un d'entre eux que lorsque son fils ne prononçait pas cette invocation dans son tashahhud, alors il lui a ordonné de recommencer la prière. Ceci nous montre que cette invocation est une invocation importante, qu'il ne convient pas de la négliger, mais que chacun d'entre nous doit faire des efforts afin de la mémoriser et la prononcer dans chacune de ses prières au dernier tashahhud. Tu lui prononces donc cette invocation en disant, comme vous pouvez le voir en note de bas de page, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min shar fitnat al-masih ad-dajjal. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe. On a ici la confirmation du châtiment de la tombe et que ceci est une chose avérée et confirmée par les textes du Coran et de la Sunna. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui renie le châtiment de la tombe et refuse d'y croire. Alors, il leur suffit comme preuve cette invocation qu'il est légiféré de prononcer dans chacune de nos prières. Si le châtiment de la tombe n'est pas une réalité, comme ces personnes déviantes le prétendent, alors contre quoi cherche-t-on refuge dans cette invocation lorsque l'on dit « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de l'enfer ?» Contre le châtiment de la tombe. Ensuite, tu dis « Et contre les tentations de la vie et de la mort. » Les tentations, durant ton vivant, elles sont nombreuses. En effet, l'homme, durant sa vie, il s'expose au péché et aux désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut également que d'autres tombent dans les innovations. Et certains tombent même dans la mécréance ou l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci est une réalité. Et nul parmi nous n'en est à l'abri. Il se peut qu'une personne soit tentée par l'argent, qu'une autre personne soit tentée par des désirs interdits, qu'un autre soit tenté par sa mauvaise compagnie, qui le pousse à commettre des péchés et à tomber dans des choses qui lui font encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit donc sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de ses tentations et de le raffermir sur la voie droite et le raffermir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se sentir à l'abri. Et nous avons comme exemple à ce sujet nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qui avaient peur pour eux-mêmes. Et avant eux, le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de l'adoration des idoles. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui demandait sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur sur la religion, en disant « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik »« Ô toi qui as retourné les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Et ce car nos cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Donc nul parmi nous n'est à l'abri. Et il nous convient d'avoir peur pour nous-mêmes tant que nous sommes vivants. Il est rapporté qu'une personne entrait un jour dans la mosquée auprès de Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu. Et il le vit en train de prier. Une fois arrivé au tashahhud, Abu Darda chercha protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'hypocrisie. Lorsqu'il termina sa prière, l'homme lui dit « Qu'Allah te pardonne, ya Abu Darda. Quel est le lien entre toi et l'hypocrisie » C'est-à-dire qu'il voit en face de lui un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'étonne de le voir demander protection auprès d'Allah contre l'hypocrisie. Il sait qu'il fait partie des meilleurs des hommes. Comment peut-il craindre l'hypocrisie? Alors Abu Darda s'exclama à trois reprises. « Oh Allah, ton pardon! Oh Allah, ton pardon! Oh Allah, ton pardon !» Et qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve? Qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve? Il se peut qu'un homme soit tenté en un instant que son cœur se retourne et qu'il délaisse sa religion à l'ayyad billah. Donc ceci est un des exemples de la compréhension qu'avaient nos pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala de cette chose. Que l'homme est tenté durant sa vie et que tant qu'une personne est vivante, elle n'est pas à l'abri de tomber dans les troubles et les épreuves. Et c'est pour cela qu'il est important de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion. Et tu demandes également la protection contre les tentations de la mort. En effet, il est rapporté que le diable se présente à certaines personnes au moment de la mort. C'est-à-dire que jusqu'à cet instant, il prodigue tous ses efforts afin d'égarer l'enfant d'Adam. Cela te montre que jusqu'à ton dernier souffle, tu n'es pas à l'abri. Et que tu te dois de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir et de te préserver des tentations de la vie et de la mort. Enfin, tu demandes dans cette invocation la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la tentation du faux messie. Et ce car si une personne vit à ce moment et qu'elle rencontre l'époque du faux messie, qui sortira à la fin des temps, qui prétendra au début être un prophète, puis ensuite qui prétendra être le seigneur de l'univers, il sera alors suivi par un grand nombre de personnes qui courront alors à leur perte. Et ceci est une des plus grandes tentations. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la tentation du faux messie. On voit donc à travers cette brève explication l'importance de cette invocation que tu prononces à la fin de chacune de tes prières. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège du châtiment de l'enfer, te protège du châtiment de la tombe, mais aussi des tentations de la vie et de la mort et de la tentation du faux messie. Et comme on a dit, cette invocation elle est fortement recommandée et certains ont même dit que c'est une obligation. Il ne convient donc pas aux musulmans de la délaisser. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « Enfin, il choisit ce qu'il veut parmi les invocations, notamment celles qui sont rapportées. Et ceci est recommandé, comme cela est confirmé dans les recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il choisisse ensuite ce qu'il veut parmi les invocations. Donc lorsque tu vas invoquer, après avoir cherché refuge contre les quatre, il t'est permis d'invoquer en les termes que tu souhaites. Toutefois, il est préférable de privilégier les invocations qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, car en faisant cela, tu mettras en pratique sa sunna. Mais également car celles-ci sont plus complètes et les termes plus appropriés. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a donné deux exemples de ces invocations. Il a dit comme Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Donc cette invocation, elle a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au noble compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Il lui a dit un jour, ô Mu'adh, par Allah je t'aime. Ne délaisse pas, ô Mu'adh, à la fin de chacune de tes prières, le fait de dire « Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik ». Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Tu vois à travers cette invocation que même pour te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de son aide. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aide pas, alors il ne te serait pas possible de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir la prière, de donner des aumônes, de jeûner et ainsi de suite parmi les différentes formes d'adoration. C'est pour cela que tu dis dans surat al-Fatiha, « Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Nous implorons ton aide, ô Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir t'adorer seul, sans associé. Tu as donc besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'évoquer et te rappeler de lui. Et tu as également besoin de son aide pour être reconnaissant envers lui. Reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés. À commencer par le bienfait de l'islam, le bienfait du suivi de la sunna, mais également les nombreux bienfaits physiques comme le bienfait de la santé, de l'ouïe, de la vue et ainsi de suite, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont indénombrables. Tu te dois d'être reconnaissant envers lui pour l'ensemble de ses bienfaits. Tu demandes ensuite à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à l'adorer de la meilleure manière. Et quelle est la meilleure manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de lui vouer sincèrement le culte, en lui vouant exclusivement l'ensemble de nos œuvres, mais également de nous conformer dans nos œuvres à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Telle est la meilleure manière d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné une seconde invocation, qui est le fait de dire « Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. » Ô Allah, j'ai fait preuve d'une grande injustice envers moi-même. Et nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Accorde-moi donc un pardon de ta part et fais-moi miséricorde. Tu es certes celui qui pardonne et fait miséricorde. Donc cette invocation, elle est rapportée par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cette invocation à son noble compagnon Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le premier calife de l'islam, le meilleur des hommes de cette communauté après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Médite sur les termes de l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne. Ô Allah, j'ai fait preuve d'une grande injustice envers moi-même, et nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Accorde-moi donc un pardon de ta part et fais-moi miséricorde. Si telle est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée au meilleur des hommes de sa communauté après lui, il lui recommande d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître ses fautes, de reconnaître son injustice envers lui-même et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Alors que dire de nous? Que dire de nous qui commettons de nombreux péchés, wallahu musta'an? Il n'y a pas de doute que nous sommes dans un grand besoin de prononcer cette invocation et autres semblables à elle. Et ceci nous prouve que quelles que soient les œuvres qu'accomplit la personne, et quel que soit son degré de piété, elle a tout de même besoin du pardon et de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ces invocations, elles sont recommandées. Ce n'est pas une obligation de les prononcer dans tes prières. Toutefois, tu dois savoir que ce moment, après le tashahhud, après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cherché refuge contre les quatre, et avant les salutations, ceci est un moment propice à l'invocation. Donc ce n'est pas un moment que tu dois négliger, mais tu dois en profiter pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc à chacun d'entre nous de faire des efforts pour apprendre, mémoriser ces invocations afin de pouvoir les prononcer dans nos prières. Et il y en a d'autres que vous pouvez trouver, toujours dans l'ouvrage de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, lors du premier tashahhud, on s'arrête aux deux attestations. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au premier tashahhud, tu t'arrêtes où? On revient à la page 26, à la formule du tashahhud. On s'arrête à Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. C'est cela l'obligation dans la prière. Puis il dit, lorsqu'on se lève pour la troisième unité, pour les prières de Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Toutefois, il est préférable de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après la généralité des hadiths à ce sujet, c'est donc une sunna de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même durant le premier tashahhud. Et si tu ne le fais pas, ta prière est valide. Puis il dit, rahimahullah, puis on se lève pour la troisième unité, c'est-à-dire en faisant le takbir, en levant les mains, puis on continue de prier, comme on l'a mentionné auparavant. On a donc terminé cette leçon, et on verra dans le prochain cours, inshallah ta'ala, la leçon 10, dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé les sunan de la prière, c'est-à-dire ce qui est recommandé dans la prière. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم